vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue en tant que congolais avec Alain Rung à la présentation.
Bonsoir. Les rebelles du M23 sont responsables des crimes de guerre commis à grande échelle, y compris des exécutions sommaires, des viols et des recrutements de force. C'est ce qu'indique un rapport de Human Rights Watch publié ce mardi à Goma. Cette ONG internationale demande à certaines autorités rwandaises de cesser immédiatement tout soutien au M23 sous peine de poursuite. Quelle analyse faire de ce rapport de Human Rights Watch? Nous recevons comme invité Anneke van Woudenberg, chercheuse senior pour la division Afrique de l'ONG internationale Human Rights Watch. Madame van den Woudenberg, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Maître Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est conseil à la Cour pénale internationale et au tribunal spécial pour le Liban. Maître Bondo, bonsoir.
Bonsoir.
Madame Rose Mutombo, présidente du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO. Madame Mutombo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Merci, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Eliane de Bounia, province orientale. Le rapport de Human Rights Watch est positif dans la mesure où c'est pour pousser la communauté internationale à agir vite pour la cause congolaise. Jimmy de Mutembo Nord Kivu, cet appel de Human Rights Watch pour interpeller les criminels rwandais est encore un cri dans le désert. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
L'ONG International Human Rights Watch accuse les rebelles du M23 d'être responsables des crimes de guerre commis à grande échelle, y compris des exécutions sommaires, des viols et des recrutements forcés dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. C'est en tout cas ce que dit le rapport de cette Organisation internationale des droits de l'homme publié aujourd'hui. Dans ce rapport, Human Rights Watch indique notamment que les combattants du M23 ont exécuté plus de 30 personnes et violé au moins 46 femmes et jeunes filles, dont des mineurs de 8 ans. Cette organisation déplore que tous ces crimes se passent en complicité avec certains officiers rwandais qui continuent à fournir leur soutien au M23. On écoute Ida Sawyer, chercheuse de Human Rights Watch.
Les rebelles du M23 sont responsables des crimes de guerre commis à grande échelle. Tous ces crimes étaient soutenus par les militaires rwandais. Certaines autorités rwandaises pourraient être considérées comme complices des crimes de guerre en raison de l'appui militaire contenu qu'elles apportent aux forces du M23. Ainsi, le recrutement pour les forces du M23 continue au niveau de Rwanda. Au moins 600 personnes étaient recrutées par force ou par ruse au Rwanda pour joindre les forces du M23. Le recrutement a continué au moins jusqu'à fin août. Il y a aussi des officiers militaires rwandais qui sont au Congo avec le M23 en train de former les nouveaux recrues dans les centres d'entraînement. Nous avons appelé au Rwanda de cesser tout soutien à ce mouvement et aussi au Conseil de sécurité aux Nations Unies de sanctionner les autorités militaires rwandaises qui donnent un soutien à ces rebelles.
Les responsables du M23, eux, invitent Human Rights Watch à se rendre sur le terrain pour mener ses enquêtes selon son porte-parole militaire, le colonel Kazarama Vianney. Il s'agit des graves accusations non fondées. Madame Anneke van Woudenberg, vous êtes chercheuse senior pour la division Afrique de l'ONG International Human Rights Watch. Quelle est l'opportunité de publier ce rapport maintenant?
Alors, on a décidé de le publier parce qu'on a reçu des nouvelles informations, qu'on a cette grande échelle de crimes de guerre commis par le M23. On avait fait des interviews avec presque 200 Congolais et Rwandais qui étaient des victimes ou des témoins ou des membres de familles ou des autorités qui nous avons donné plusieurs informations sur ce type de violation des droits de l'homme. Et je dois dire, le M23, on dit, selon leur porte-parole, qu'on doit vérifier sur terrain. Je peux assurer les auditeurs qu'on avait vérifié sur terrain. Notre équipe était sur place à Rutshuru et en fait, on a parlé nous-mêmes avec les commandants M23 pour discuter nos soucis. Donc, c'est certainement bien fondé. Et aussi, je voudrais juste ajouter, ce n'est pas la première fois que les responsables de M23 sont accusés de violations des droits de l'homme. Avant qu'ils étaient M23, ils étaient dans l'armée, et c'était avant ça dans le CNDP ou dans des autres groupes armés. Et en fait, les cinq leaders, les plus grands leaders, les plus grands chefs de M23 ont toute une histoire de violation des droits de l'homme, notamment le général Bosco Ntaganda, déjà recherché par le Cour pénale internationale, le colonel Sultani Makenga, déjà accusé de recrutement d'enfants et des massacres, le colonel Innocent Zimurinda, déjà accusé pour des massacres de caractère ethnique et plusieurs d'autres. Donc les choses qui nous étonnent, c'est que ça continue et qu'on n'a pas une arrestation de ces gens. Et franchement, on n'a jamais une paix durable sans que ces gens et d'autres personnes responsables soient traduits en justice. C'est pour ça qu'on a décidé de dénoncer encore, de demander au gouvernement congolais, cette fois-ci au gouvernement rwandais, qui continue à supporter le M23, de faire quelque chose, et bien sûr à la communauté internationale, de ne pas rester avec des yeux fermés, mais de prendre des actions, de sanctionner ces gens, de sanctionner le gouvernement rwandais et finalement d'aussi utiliser leur aide de développement pour assurer que le gouvernement rwandais change leur tactique.
Alors je vous propose que l'on prenne, madame, cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasai occidental avant qu'elle ne perde de son sens.
Maître Adrien Ilobakwe-Ipero au Kasai occidental, précisément dans la ville de Kananga. J'aimerais savoir quels sont les éléments probants sur lesquels l'organisation internationale Human Rights Watch se basait pour fonder ces déclarations. Est-ce opportun à ce moment pour donner une telle déclaration au moment où nous savons qu'il y a des efforts à gauche, à droite pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo?
Réaction à Nicky Van Woudenberg.
Alors, je peux dire qu'on a basé cette information, comme j'ai déjà dit, sur des interviews avec des témoins oculaires, avec des victimes un-un, avec des membres de famille, des autorités et plusieurs d'autres, avec combattants M23 qui ont évadé les rangs de M23, et il y a plusieurs. Mais bien sûr, on a parlé aussi à les deux côtés de la frontière, donc au Congo et aussi avec des gens rwandais, pour assurer que toutes les informations que nous avons reçues, qu'on peut les confirmer. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quelques actions maintenant pour chercher la paix à l'est du Congo. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution. On parle toujours d'une force neutre. Où est cette force neutre? On a quelques idées, mais on n'a pas encore des choses concrètes. Et en fait, c'est ça que nous demandons. C'est qu'on ne peut pas rester sans action quand nous sommes en face de ces types de violations. Encore des femmes violées, des jeunes filles violées, encore des jeunes hommes exécutés pour aucune raison. Alors, vraiment, ce n'est pas la première fois que je suis dans le dialogue entre Congolais pour parler de violations des droits de l'homme. Alors, nous voulons que ça arrête et qu'on trouve une solution durable. Et pour ça, c'est clair qu'on doit pas seulement pousser le gouvernement congolais, mais on doit faire le lobbying à Kigali pour assurer que les autorités militaires rwandaises s'arrêtent d'appuyer le M23. Et bien sûr, dans d'autres grandes villes du monde, comme New York, Washington, Londres et d'autres endroits où les communautés internationales peuvent assister d'amener une paix durable.
Alors, il y a un passage du rapport Anneke van Woudenberg où Human Rights Watch relève, cite les différents gouvernements des bailleurs de fonds qui ont suspendu leur aide au Rwanda. Mais dans le même paragraphe, vous rappelez que le 4 septembre dernier, la Grande-Bretagne a annoncé qu'elle allait débloquer la moitié de l'assistance financière qu'il avait gelée. Pourquoi Human Rights Watch ne fait-il pas aussi une pression, une grande pression sur le gouvernement britannique, par exemple?
Ah, bonne question. En fait, je suis à Londres et c'est ça exactement que je vais faire cette semaine. Déjà, on avait critiqué cette décision. En fait, c'était une très mauvaise décision de décider de relancer l'aide de Grande-Bretagne au Rwanda. Et en fait, quand j'ai lu la réponse du gouvernement de Grande-Bretagne, ils ont dit qu'ils ont fait ça parce que, selon eux, la situation a amélioré sur terrain et parce que le Rwanda est impliqué dans des discussions pour la paix. Je dois dire que les faits ne sont pas ça. En fait, les faits disent clairement que la situation n'a pas amélioré sur terrain. Et en fait, on avait documenté, comme on a publié, que les violations des droits de l'homme continuent. Et donc, moi, certainement, je vais parler avec les autorités de la Grande-Bretagne pour continuer de mettre la pression sur un changement de cette politique, parce que je pense qu'ils ont donné un très mauvais signe. Ils ont donné au début une bonne signe pour commencer de suspendre cette assistance de développement, mais pour vite décider, sans preuve, sans information claire, sans vérifier sur terrain, de décider de relancer ça. Je pense malheureusement que c'était une très mauvaise décision, une décision qui était prise par une ministre dans les derniers quelques jours de son travail, donc le ministre Andrew Mitchell, qui a visité le Congo il y a quelques semaines et qui maintenant a changé son poste. Donc, il a un nouveau poste et dans ces derniers quelques jours, il a décidé de continuer l'aide au Rwanda. Mauvaise décision et on va discuter ça avec le gouvernement de Grande-Bretagne.
Maître Richard Bondo, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, également conseiller à la Cour pénale internationale et au tribunal spécial pour le Liban. Ce rapport de Human Rights Watch est-il opportun?
Merci beaucoup de la question, Alain. Ce rapport est non seulement opportun, mais il est tellement fiable parce que fait sur base des données recueillies sur les deux postes frontaliers, c'est-à-dire et du côté rwandais et du côté congolais, par Human Rights Watch. Et Madame Woudenberg est une émissaire permanente de Human Rights dans notre pays, et qu'elle a pris des contacts avec son équipe, elle a pris des contacts avec les transfuges ex-CNDP, transfuges M23, et même des Rwandais qui ont été récemment recrutés au Rwanda. Et toutes ces personnes ont fait des déclarations concordantes qui accusent le M23, qui charge les hauts responsables militaires rwandais, et même la haut commissaire Navi Pillay a donné une liste des hauts responsables de M23 qui pour la plupart, ou presque tous, sont des Rwandais, des officiers rwandais, mais qui avaient réintégré notre armée à travers le mécanisme du CNDP. Alors, c'est pour dire que ce rapport, au moment où il y a des négociations qui se font tantôt à Addis Abeba et à Kampala, je crois que c'est un rapport tout à fait opportun parce que il vient donner de la matière aux négociateurs, disons de la Sirgel.
Alors, deux réactions pour vous, Maître Bondo. Pepe Lisungi de Kisangani en province orientale. Je voudrais savoir si Human Rights Watch ne se limitera qu'à accuser, car plusieurs accusations, rappelle, faites par cette ONG en Afrique ne portent pas toujours de bons fruits. Augustin Mongo de Kalima-Maniema, je suis satisfait du travail que ne cesse d'abattre jour et nuit Human Rights Watch pour lutter contre l'impunité, mais il convient de reconnaître que ce n'est pas la première fois que cette ONG pointe du doigt aussi bien les groupes armés, les forces régulière que certains officiels sans que les incriminés ne soient interpellés. Je me rappelle de son rapport sur le massacre des adeptes de Bundu Dia Congo qui n'a jamais eu d'effet. À titre pédagogique, Maître Bondo, quel est l'objectif poursuivi lorsqu'on publie un tel rapport?
Lorsqu'on publie ce rapport, c'est pour interpeller non seulement les autorités congolaises, mais également la CPI, le bureau du procureur. Parce que, à la lumière de l'article 15 du statut de Rome, c'est le rapport ici vaut ce que nous appelons un renseignement. Ce sont des renseignements qui peuvent justifier, susceptibles de justifier la demande d'une autorisation de lancer l'enquête devant la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale par Madame Bensouda, pour que les enquêtes soient menées et éventuellement lancer même des mandats à charge de tous ces officiers supérieurs rwandais et congolais qui sont impliqués dans ces crimes de guerre.
Gaston Mumbere de Lumbashio Katanga, au sujet du rapport de Human Rights Watch, je voulais souligner que les responsables rwandais qui soutiennent le M23 sont mis sur la sellette avec menace d'être poursuivis en justice. Mais pourquoi les responsables congolais qui soutiennent aussi le M23, comme les rwandais, ne sont pas indexés dans ce rapport?
Je crois que tout est dit. Peut-être le rapport n'a pas donné les noms de nos officiers, mais j'ai vu par exemple pour des Congolais qui sont dans les Mai Mai, on a cité des noms, et ces gens, c'est la République démocratique du Congo, c'est le gouvernement, à travers l'auditorat militaire ou le parquet de la République, le parquet général de la République, peuvent poser des actes dans le sens d'arrêter tous ces criminels, d'arrêter tous les délinquants et de les traduire devant la justice. Donc il appartient aux autorités congolaises de veiller pour la sécurité des personnes et de leurs biens afin d'arrêter et de combattre l'impunité. Le problème chez nous, c'est que l'impunité semble devenir la règle. C'est ainsi que monsieur l'intervenant là, disons celui qui pose la question, parle par exemple de l'affaire de Bundu Dia Congo qui n'a pas eu de suite, les multiples rapports qui n'ont pas eu de suite, mais c'est une interpellation des autorités nationales pour que la lutte contre l'impunité ne connaisse aucune complaisance.
Alors, je posais la question tout à l'heure à Madame Hundenberg au sujet de la Grande-Bretagne qui prenait l'option de relancer son appui au Rwanda. Elle a estimé que c'est une grave erreur. Quel est votre point de vue?
C'est vraiment une grave erreur, mais je crois que l'OTAN, aujourd'hui, avec ce rapport, semble confirmer cette erreur, une erreur tout à fait grave parce que elle porte atteinte aux vies humaines. C'est que ici on renforce le Rwanda dans sa culture de se faire comme hygiène de vie, tuer, massacrer. C'est ça l'hygiène de vie des Rwandais, disons des autorités rwandaises, voudrais-je dire.
N'est-ce pas trop fort?
Je pense que c'est pas trop fort parce que les gens qui trouvent du plaisir à tuer, c'est ça leur hygiène de vie. Et vous ne pouvez pas vous imaginer que un mari voit sa femme violée par une quinzaine de personnes, 10 personnes, et puis lui aussi tabassé, donc humilié au point même d'en mourir. Il y en a un qui est mort dans un village cité dans ce rapport. Mais ces crimes qui heurtent profondément la conscience humaine, ces crimes ne doivent pas rester impunis. Et je crois que ce rapport est une interpellation, comme je le dis, au procureur de la CPI qui doit exploiter les mécanismes prévus à l'article 15 du statut pour que tous ces renseignements lui servent d'atout pour obtenir une autorisation devant la chambre préliminaire et engager des poursuites contre ces officiers qui sont nommément cités et par Madame Najib Pillay et par le rapport lui-même.
Prenons cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous, Maître Richard Bondo.
Chef des travaux Jean-Vernard Mibé Komissia, Mbandaka, province de l'Équateur. C'est bien de dénoncer tous ces crimes, mais après, sur le même espace, pendant plus ou moins 20 ans, les crimes sont commis à grande échelle sans que les coupables soient punis. Aucun signal fort de la part des grandes puissances ni du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que ce dernier a pour mission le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il y a là une sorte de complicité internationale en faveur du démembrement de la RDC.
Ça fait plusieurs mois, Maître Bondo, que cette histoire du M23 a commencé. Aucun signal fort des grandes puissances. Il fallait attendre que Human Rights Watch produise un rapport pour ça.
Le signal fort est donné par toute la pirouette que vous voyez, des déplacements. Aujourd'hui au Congo, nous avons reçu la visite du secrétaire général adjoint chargé, je crois, de l'humanitaire.
Maintien
de la paix, qui est dans l'ONUR. Et toutes ces autorités, tous ces envoyés, ces émissaires qui viennent des Nations Unies, qui viennent des États-Unis, qui viennent de la Belgique, qui viennent de la France... Toute la communauté internationale prend la chose à cœur, mais le rôle premier pour la défense de la sécurité du peuple congolais revient au gouvernement de la République. Et le gouvernement de la République doit tout faire pour que nous ayons une armée forte, une armée républicaine, une armée capable d'anéantir des velléités expansionnistes du Rwanda. Et je crois que si nous avons une réponse approprié à toutes ces velléités du Rwanda, personne ne pourrait lever son petit doigt ni la tête pour s'attaquer à la RDC et commettre des massacres de grande échelle dont nous déplorons l'ampleur aujourd'hui.
Madame Rose Mutombo, vous êtes présidente du cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Comment, au niveau du CAFCO, vous avez reçu ce rapport de Human Rights Watch?
Je salue d'abord tous les auditeurs de Radio Okapi ainsi que mes co-batteurs, mes co-débatteurs, Maître Bondo et Madame Annette. Nous avons eu à prendre connaissance de ce rapport qui a choqué plus d'une personne suite aux différentes atrocités qui sont commises surtout sur les civils, les femmes et les enfants particulièrement. Et que nous croyons que c'est un énième rapport qu'est Human Rights, qui fait du bon travail dans notre pays, vient de publier. Nous croyons qu'il est grand temps qu'on puisse être assez regardant sur les différentes atrocités qui sont commises de manière inhumaine, de violations des droits humains qui sont commises dans des conflits armés et plus particulièrement par ces groupes armés appelés M23. Et c'est là, on augmente encore, cela implique l'augmentation encore des nombres de femmes violées, que ces femmes qui sont violées n'ont pas encore trouvé celles qui ont été violées lors des autres conflits armés, n'ont pas encore trouvé des réponses à leurs problèmes. Nous voyons aujourd'hui que les femmes et les enfants errent par-ci par-là, des déplacés. On a eu à lire dans ces rapports plus de 200 000 déplacés depuis le mois d'avril. C'est grave, monsieur le journaliste. Je crois qu'il est grand temps que la communauté internationale et tout le pays, surtout de Grands Lacs qui sont avec la RDC dans cette organisation internationale, puisse se prononcer, prendre des sanctions sévères à l'endroit du M23 et à travers le M23, le gouvernement rwandais qui les soutient.
Alors, Madame Rose Mutombo, vous dites que les femmes qui étaient déjà violées, qui étaient victimes des atrocités des groupes armés et autres avant, n'ont pas encore trouvé des solutions à leurs problèmes, et on en ajoute d'autres. Parlez-nous un peu de la prise en charge médicale, psychologique et socio-économique de ces femmes.
Monsieur le journaliste, ce qu'on voit souvent, c'est plus la prise en charge médicale. Mais cette prise en charge médicale n'est pas totale, puisque on voit comment l'hôpital de Panzi est débordé par les malades qui doivent suivre des soins là-bas. Et si on regarde bien, on a mobilisé beaucoup de fonds sur le plan international, mais les bénéficiaires, quand vous analysez, n'arrivent pas à avoir les soins appropriés, puisque ces fonds qui sont mobilisés reviennent parfois pour la gestion de certains projets des différentes organisations qui sont sur terrain, et les vrais bénéficiaires n'en profitent pas. C'est bien beau aussi d'assurer la prise en charge médicale, mais il faut tenir compte de l'aspect même psycho qui accompagne ces différentes femmes violées. Cela ne suit pas, et encore moins la réinsertion économique. Vous vous rendez compte, une femme qui a perdu de sa personne du fait qu'elle soit violée, une femme qui se retrouve sans abri, sans soutien, sans rien, malgré qu'elle a une prise en charge médicale. Je crois qu'il est grand temps qu'on mette l'accent sur la prise en charge et sur la réinsertion socio-économique des personnes violées et surtout sur la prise en charge judiciaire, puisqu'il y a beaucoup de cas de violences sexuelles qui sont pendants et qui ne trouvent pas de solution devant nos cours et tribunaux.
Alors, il y a Franklin Matumaini qui nous écrit de Bukavu Sud Kivu qui dit « La question du M23 et ses exactions semble inquiéter plus la société civile, les organisations internationales et les ONG que le gouvernement, car comment comprendre que toutes les grandes et sérieuses révélations soient toujours faites par les ONG, tantôt c'est la MONUSCO, la société civile et jamais le gouvernement, Madame Rose Mutombo ?»
Il peut avoir raison, mais le gouvernement joue son rôle et la société civile joue le leur. La société civile vit dans la communauté et elle est très proche de la population, d'où elle vit toutes ces atrocités. C'est le rôle de la société civile, c'est de dénoncer, c'est ce qu'on est en train de faire. La prise en charge ou les solutions à trouver, c'est le gouvernement qui doit le faire. La sécurité, c'est le gouvernement. La société civile ne peut que jouer son rôle de dénoncer. C'est au gouvernement de jouer son rôle réel et effectif de la protection de sa population, quoi.
Alors, quelle est la réaction du CAFCO au sujet de la Grande-Bretagne qui reprend son aide vis-à-vis du Rwanda?
Nous, CAFCO travaille dans ses projets avec le gouvernement britannique. Et nous avons été dessus de la position de revirement assez rapide du gouvernement britannique. Et nous osons croire que par les biais de nos différents correspondants, on pourra réagir. Et au niveau des CAFCO, nous avons eu à réfléchir. Nous allons rencontrer l'ambassadeur qui est encore là, avec qui on a de bons contacts par rapport aux différents projets que nous menons. Nous allons échanger avec lui et ce n'est pas normal. Au contraire, lors de la déclaration de femmes à travers CAFCO, nous avons eu à féliciter les différents gouvernements puisque le problème des femmes, le problème des CAFCO, c'est de voir ces sanctions s'étendre à des différents pays qui prétendent être les amis de la RDC. Et quand il y a maintenant un gouvernement qui a eu à prendre une décision salutaire qu'on a eu à saluer, c'est revire, ça pose problème. On se demande finalement, est-ce que nos relations sont sincères?
Prenons cette réaction qui nous vient de Mbujima au Kassai Oriental pour vous, Madame Rose Mutombo.
C'est Galvani placé dans Mbujimayi. Les rapports de Human Rights Watch est accablant, mais aussi salutaire pour la population de la RDC. Cela prouve à suffisance que la situation de l'Est de la RDC ne laisse indifférent les acteurs internationaux que nationaux. Mais le plus important serait, en dehors de la dénonciation, la condamnation, en tous les moyens possibles pour que cette population à qui l'on s'intéresse tant puisse trouver gain de cause.
Madame Rose Mutombo, dénoncer, mais toujours sans cause. À quoi ça servirait finalement?
Effectivement, nous avons décrié plus d'une fois l'impunité qui demeure dans notre pays, et nous croyons qu'il est grand temps qu'on puisse sanctionner tous les seigneurs de guerre, tous les auteurs de tous ces crimes. Puisque qu'est-ce que nous voyons souvent, nous observons en tant que femmes, ces seigneurs de guerre ont une récompense à travers nos institutions en ayant de postes et de responsabilités. C'est ce qui choque plus d'une femme qui a été dans des conditions, qui a été violée et qui trouve que c'est vraiment une récompense. Je crois qu'il est grand temps et on puisse sanctionner tous ces auteurs des différents crimes en RDC, qu'on regarde comme si c'était quelque chose de banal ou quelque chose de normal. Mais je crois que avec la réforme du secteur sécuritaire, on doit vraiment pousser les procédures qui ont été mises en place pour que les différents auteurs des crimes ne restent pas impunis, et cela peut réconforter la population d'une manière générale.
Maître Bondo, vous avez demandé la parole très rapidement avant que je la redonne à Anneke Van Rundenberg.
Oui, moi je voudrais essayer de rencontrer un peu tous les intervenants qui disent que tous ces rapports, toutes ces déclarations risquent de demeurer simplement de bons chapelets d'intention. Mais moi je voudrais dire qu'ici il y a une responsabilité de notre gouvernement, c'est de exploiter en désignant, je ne fais pas du racolage de la clientèle, mais je dis que les autorités de la République doivent désigner des avocats congolais à base de tous ces rapports pour que nous puissions déposer une plainte en règle au bureau du procureur afin de lui tirer les vers du nez, c'est-à-dire pousser le procureur à poser des actes sur notre territoire, et là les autorités congolaises auront prouver à la face du monde qu'elle gère un peuple et ce peuple a le droit d'être protégé.
Alors, puisque vous évoquez le volet judiciaire, Maître Bondo, et par rapport au Rwanda qui est un État en face.
Oui, mais le Rwanda, je dis bien que le procureur peut obtenir autorisation du Conseil de sécurité pour poursuivre les responsables rwandais, parce que le Rwanda n'est pas parti au statut de Rome. Mais le procureur peut obtenir un feu vert au niveau du Conseil de sécurité. Et c'est le cas, par exemple, du président soudanais qui est traqué, alors que le Soudan n'est pas parti au statut de Rome. Je suis d'avis que tout ça est tributaire aussi de l'efficacité de notre diplomatie, et avoir un ministre des Affaires étrangères à la hauteur de responsabilité, un ministre de la Justice à la hauteur de ses responsabilités, et des avocats congolais dévoués à défendre la patrie et non des gens qui vendent du vent.
Anneke Van Rundenberg, je rappelle que vous êtes chercheuse senior pour la division Afrique de l'ONG International Human Rights Watch. Il y a Matumaini Franklin de Bukavu Sud Kivu qui avait une question double volée. Dans son deuxième volet, il dit de quels moyens de pression dispose Human Rights Watch pour faire plier les autorités rwandaises là où les sanctions économiques n'ont rien produit?
Alors, donc, Human Rights Watch, nous sommes une ONG, pas un gouvernement, mais bien sûr, on peut pousser la communauté internationale et d'autres gouvernements de prendre des actions. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Certainement, on doit commencer à dénoncer, à assurer que les faits sont bien connus par les diplomates et par plusieurs d'autres, et après ça, on doit les convaincre de changer leur politique. Mais si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à la Cour pénale internationale, parce que je suis tout à fait d'accord avec Madame Mutombo et aussi Maître Bondo, de mettre fin au cycle d'impunité est clé. C'est clé pour la future, pour la résolution de conflits à l'Est, mais aussi pour assurer un développement durable dans tout le Congo. Et en fait, on a deux niveaux, je pense, de choses qu'on peut faire. Certainement, le Cour pénal international a la juridiction d'enquêter des crimes graves au Congo, commis par les Congolais, mais aussi commis par les Rwandais ou par d'autres gens. Donc, si un officier rwandais est au Congo et il a commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, le Cour pénal international peuvent enquêter sur ça et peuvent prendre des actions par rapport à cette personne. Donc, je pense que c'est important qu'on demande à la Cour pénale internationale d'enquêter sur des exactions commises par le M23 et les personnes qui appuient le M23. Mais deuxièmement, si je peux juste ajouter une autre chose, je pense qu'on ne doit pas dépendre seulement sur le Cour pénale international. On a vu que déjà, ils ont arrêté quelques seigneurs de guerre, Thomas Lubanga, Germain Katanga et plusieurs d'autres de l'Ituri. Donc, c'est déjà une étape en avance. Mais c'est très peu de gens qui réellement vont être traduits en justice au niveau de la haie. C'est important que le gouvernement congolais aussi lance d'autres types de justice, d'autres institutions, d'autres mécanismes pour juger des personnes responsables pour des crimes graves. Et c'est pour ça que la société civile, les activistes des droits de l'homme, Human Rights Watch ont suggéré une chambre mixte, donc un type de cour spéciale dans le système judiciaire congolais, avec des juges congolais et des juges internationaux pour juger des crimes commis au Congo. Pour ça, nous ne dépendons pas tout le temps sur le CPI, mais on peut commencer de mettre fin à cette culture d'impunité. L'ancien gouvernement, l'ancien ministre de la Justice, le professeur Bambi Luzolo, a lancé un projet de loi sur cet aspect. Malheureusement, le Parlement n'a pas passé ça. Le Sénat a rejeté ça. Ils ont demandé au gouvernement d'étudier ça encore. Je pense le moment est venu que cette idée est étudiée, que le gouvernement congolais peut mettre ça en place et que le Congo peut commencer de juger les criminels dans le M23 et dans plusieurs d'autres groupes armés et dans l'armée.
Madame Rose Mutombo, vous êtes présidente du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO. Le rapport de Human Rights Watch dénonce aussi des exactions commises par les forces armées congolaises, notamment arrestations arbitraires, mauvais traitements des détenus, meurtres et pillages à grande échelle.
Allô?
Oui, Madame Mutombo, est-ce que vous m'avez suivi?
Non, je ne vous ai pas suivi.
Voilà, je disais que le rapport de Human Rights Watch dénonce également des exactions commises par les forces armées congolaises, notamment arrestations arbitraires, mauvais traitements, des détenus, meurtres, pillages à grande échelle.
Oui, effectivement, à travers ce rapport, on a pu lire ces différentes violation des droits humains commises du côté des Congolais. C'est là où j'ai dit nul n'est au-dessus de la loi. Il est grand temps qu'on puisse sévir les différentes personnes impliquées dans ces différentes violations. Il faut que la sanction soit sévère pour que ces atrocités cessent. Il faut que les gens apprennent à respecter les droits de citoyens, puisque ces militaires sont là pour protéger la population et particulièrement la population civile. Mais on ne peut pas comprendre que les gens qui sont censés rassurer la population puissent commettre de telles atrocités. C'est là où on revient à dire qu'il faut que l'impunité cesse dans notre pays. Il faut qu'on puisse sanctionner. Et cela va permettre à ce qu'il n'y ait pas tellement de gens qui se permettent de faire n'importe quoi comme si c'était dans une jungle, monsieur le journaliste. Il est grand temps qu'on puisse sanctionner. S'il s'avérait que réellement ils ont violé, ils ont commis des violations des droits humains, il faut qu'on les sanctionne.
Vous avez suivi la proposition d'Anneke van Oudenberg concernant la chambre mixte. Est-ce que vous pensez que c'est une solution efficace?
En tant qu'activiste des droits de l'homme, je ne peux être que d'accord. Mais moi, j'ai toujours une autre vision. La justice, quand même, c'est un domaine de souveraineté d'un pays. Je crois qu'on doit renforcer la justice nationale avant qu'on se réfère à d'autres instances où on doit mettre des chambres spécialisées. Je ne suis pas contre ces chambres spécialisées, mais je crois qu'on doit donner la magistrature de notre pays de moyens et les atouts capables pour qu'ils puissent les magistrats puissent dire les droits comme il le faut. Et c'est là, les chambres spécialisées nécessitent beaucoup de moyens et cela peut prendre assez du temps. Et dans l'entretemps, ce sont des atrocités qui se commettent du jour au lendemain. Je crois qu'on peut commencer avec notre propre justice. Moi, je crois à cette justice. On peut commencer à punir d'abord ceux qui sont cités dans ces différents rapports avant de commencer les chambres spécialisées, puisqu'on attend encore la loi.
Merci, Madame Rose Mutombo. Je rappelle, entre-temps, qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Maître Richard Bondo, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, conseiller à la Cour pénale internationale et au tribunal spécial pour le Liban. Quel est votre point de vue au sujet de la chambre mixte proposée par Anneke van den Hundenberg? Madame Mutombo pense que la justice est un domaine de souveraineté, qu'il faudrait commencer par la justice congolaise.
Moi, je crois que les deux ont partiellement raison, mais vous vous rappelez, Alain, qu'au sortir du dialogue intercongolais, il a été pris une résolution d'un tribunal spécial pour la RDC. Et ce tribunal, tous les différents gouvernements qui se sont succédés n'y ont jamais pensé, et que M. Louzol ait pensé aux chambres spécialisées, c'est déjà un pas. Mais moi, je crois que les chambres spécialisées, on en a vu par exemple au Cambodge, et ça fonctionne. L'essentiel pour nous, c'est de combattre l'impunité. Et comme Mme Mutombo parle du domaine de souveraineté comme justice, je lui accorde. Mais il faudrait que les autorités politiques ou les dirigeants de ce pays aient la conscience de cet idéal de la souveraineté. Et nous voyons que dans la pratique, il se pose un problème. Par exemple, un militaire qui n'a pas de formation, mais qui a une arme, qui vient du Rwanda caporal, qui arrive dans notre armée, il est général. Juste par la magie d'un accord, comme l'accord du M23 là, avec le CNDP. Donc, Ntaganda qui est rwandais, qui arrive chez nous, il est général. Alors qu'au Rwanda, il peut même pas être proche de Kabarebe. Mais il est chez nous général, sur ordonnance du président de la République, et il est dans le trafic. Vous avez appris cette affaire de l'avion qui est venu avec beaucoup d'argent, qui prenait, je ne sais pas, du coltan dans le Nord Kivu. Tout ça, des trafiquants, des gens qui n'ont aucun sens d'armée ou d'être militaire. Et c'est pour cela que nous disons, il faut renforcer, certes, la justice congolaise, mais néanmoins, commençons par ces chambres spécialisées où nous aurons des étrangers qui vont travailler avec des compatriotes pour combattre l'impunité.
Et en un mot, en guise de conclusion, Maître Bondo, quelle chance faudrait-il accorder à ce rapport de Human Rights Watch?
La chance, c'est que les autorités congolaises saisissent ce rapport comme un atout pour que les avocats congolais que le gouvernement va recruter ou bien va consulter ficellent une plainte sérieuse à déposer à charge de toutes ces personnes qui sont connues. Madame Pillet nous a donné les noms, il y a dans ce rapport des noms, et le dossier des experts des Nations Unies nous a encore donné des noms, les experts nous ont donné des noms, et tout ça, ça fait un tout. Nous avons un atout aujourd'hui de déposer une plainte en bonne et due forme à la CPI et qu'on déclenche les enquêtes.
Madame Rose Mutombo, quelle est votre conclusion?
J'ai conclu, monsieur le journaliste, que ce rapport tombe à point nommé et que je crois que nos autorités doivent exploiter ce rapport pour nous permettre à ce qu'on puisse avoir des arguments costauds quand nous allons dans les différentes négociations et pourquoi pas, comme l'a dit mes co-débatteurs, saisir les instances internationales, puisque ça a trop duré, ces différentes violations des droits humains en RDC.
Merci. Anneke van Hundenberg, à quoi devront s'attendre les Congolais à la suite de ce rapport?
Alors, j'espère bien que tout le monde maintenant est bien au courant de les crimes de guerre commis par le M23 et par les officiers rwandais qui supportent et qui appuient le M23. Maintenant, on attend la justice, on attend des actions de la communauté internationale Human Rights Watch va continuer de pousser ça, bien sûr à Kinshasa, à Kigali et dans d'autres villes du monde. Et j'espère à la fin, on peut aller étape par étape en avance pour la justice.
Merci mesdames et messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Des suggestions, des remarques, écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Au revoir.